Merci Richard de ces mots qui me font plaisir. Et puis, je suis désolé pour les gens qui sont venus pour écouter une conférence sur Sangat. Ce ne sera pas ça ce soir. Voilà. C'est un peu au pied levé, c'est un peu dans l'urgence que je... Vraiment dans l'urgence, puisque le bouquin qu'il a évoqué est sorti, en fait, vendredi dernier. Donc, voilà, quoi. Et puis cet ouvrage, donc il l'a rappelé, a été sorti avec la complicité de Michel Descossi, photographe qui parcourt les lagunes depuis plus de 50 ans et qui fréquente les cabanes, les cabaniers et les cabanières, bien entendu. Une précision également, il m'a un petit peu nommé un ethnologue des cabanes. Moi, je me situerais plutôt en cabanier de l'ethnologie. Et c'est pas une pirouette de langage, c'est dans la mesure où mes recherches, mes travaux plutôt, sont souvent un braconnage sur le terrain des autres, et un bricolage aussi, autant sur le plan méthodologique que sur le plan théorique, c'est souvent à partir d'une expérience vécue et puis d'enquête de terrain, et puis c'est aussi un recyclage des travaux des autres. Mais après tout, j'assume. Le bricolage, le recyclage et puis le braconnage, c'est les trois piliers de la culture cabanière. Tout ça, bien entendu, en guise de précautions oratoires pour vous demander votre indulgence. Alors, mon intervention se déroulera en deux temps. Tout d'abord, une approche générale de la cabane à travers l'étymologie du terme même, ainsi que dans sa relation qu'elle noue avec l'imaginaire. Et dans un deuxième temps, j'évoquerai trois terrains que je considère emblématiques: les cabanons de Bauduc, à l'extrême pointe de la Camargue, les cabanes des étangs languedociens, et enfin les barracas de Sénil, c'est-à-dire les cabanes de roseaux, de la côte sableuse et du littoral du Roussillon. Cette deuxième partie sera donc complétée par un film qui s'appelle Joseph le Cabanier, film de 24 minutes, qui a été réalisé en 2003-2004 avec Luc Bazin, ethno-cinéaste, qui est parmi nous ce soir également. Alors, l'étymologie. L'étymologie de la cabane se révèle, de mon point de vue, riche de sens et de questions. Le terme cabane est apparu en 1387, a été emprunté au provençal cabana, qui désigne une chaumière, une petite maison. Alors, si aujourd'hui il désigne une construction rudimentaire, comme la cabane au fond du jardin, bien connue, ou une cabane de bûcheron, une cabane de chantier, une cabane de pêcheur, bref, des cabanes fonctions, en quelque sorte, où la variabilité des formes traduit la diversité des usages, le mot a eu des emplois spécifiques tout au long de l'histoire. Abri pour les animaux, apparu dès le XVe siècle, abri de haute montagne, au XVIIIe, concurrencé par refuge. L'igloo des Esquimaux était parfois désigné sous le nom de cabane de neige. Au Québec, le mot cabane apparaît au XIXe dans le syntagme cabane à sucre, où l'on traite la sève d'érable. Comme la cagnade des poilus, la cabane est passée dans l'argot pour désigner la prison militaire, 1905, puis la prison et la maison de tolérance, à l'instar du cabanon où l'on enfermait les fous dangereux. À ne pas confondre, bien sûr, avec le cabanon provençal, chanté par Alibert, c'est un petit cabanon, pas plus grand, etc., etc., et bien étudié par Claudie Gontier, qui se dit d'une petite maison de campagne ou d'un chalet de plage. Autre question cruciale, le caban, vêtement du marin, adapté aux intempéries, est-il le masculin de la cabane? On pourrait le supposer, car à la manière de la cabane portative du berger, évoquée par Zola dans La Terre, en 1887, je cite Zola, « étroite niche qui lui sert de lit, d'armoire et de garde-manger, le marin porte-t-il son caban en cas de pluie ou de frimas ?» On retiendra deux dérivés intéressants pour notre propos. Cabine, qui désigne un abri provisoire ou un local avec divers emplois techniques, et cabinet, qui en dehors du lieu d'aisance désigne une petite chambre retirée ainsi le cabinet noir, pièce obscure où l'on enfermait les enfants pour les punir, ou l'endroit où l'on se retire pour réfléchir ou travailler. C'est le sens de cabinet de curiosité et de cabinet de lecture qui est apparu au XVIe siècle. Quant au verbe cabaner, outre le sens habituel de loger dans une cabane, il est employé en marine de nos jours au sens de chavirer. En sériciculture, on l'emploie dans le sens technique de disposer un abri de branchage pour que le ver à soie tisse son cocon. Le terme cabanier, que nous emploierons dans son usage languedocien pour désigner les habitants ou utilisateurs de cabanes, est apparu au XIXe siècle pour désigner dans l'ouest de la France un exploitant agricole. Notons enfin que le féminin cabanière s'applique spécialement aux ouvrières des fromages de Roquefort. Après ce détour étymologique révélateur de la polysémie de l'objet, nous allons tenter de montrer pourquoi la cabane est bonne à penser, comme le dit le sociologue Bernard Picon dans « Cabane, cabanons et campements », ouvrage collectif paru en 2001. Bonne à penser parce qu'elle renvoie en premier lieu à l'imaginaire. Imaginaire forgé dans l'enfance, où la construction de cabane est une phase essentielle de la construction de soi, un rite de passage. La cabane de l'enfance a en elle ses corollaires, l'appropriation, ou le syndrome du coucou, et la destruction. On sait la jouissance qu'éprouve un enfant de s'emparer de la cabane d'un autre ou de la détruire. En extrapolant un peu, on peut se demander si les préfets qui ordonnent la destruction des cabanes, avec force tractopelle, ne seraient pas au fond des grands-enfants. Plus sérieusement et plus tard, compte tenu de l'importance de la cabane dans l'enfance, elle devient dans le monde adulte une régression socialement admise, mais juridiquement condamnée. La construction de la cabane est une utopie opposée à la trivialité quotidienne. Alors cet imaginaire est présent dans toute la littérature. On pense aux contes initiatiques enfantins, qui ont été étudiés particulièrement par Josiane Bru, à Hansel et Gretel, la cabane en pain d'épices, à Huckleberry Finn, à Tom Sawyer, ou, me rappelait Laurence Nicolas, aux trois petits cochons, dont les cabanes sont un efficace raccourci et une intéressante métaphore de l'évolution des matériaux de construction, la paille, le bois, la pierre. On peut penser également au roman d'aventure qualifié de Robinsonnade, où l'imaginaire de la cabane joue un rôle déterminant. J'avais travaillé un peu là-dessus. Simple grotte dans le roman fondateur de Defoe, Robinson Crusoe, de 1719, elle devient une hutte autochtone dans Les Robinson français de J. Morland, j'ignore son prénom, 1856, et cette cahute, croisement de cabane et de hutte, analogue aux constructions des naturels canaques, devient leur salut. Cabane dans les arbres, enfin, dans le roman pédagogique Le Robinson suisse de Jean-Rodolphe Wyss. Alors on peut penser également à toute la littérature des pionniers américains, où la log cabin, la cabane de rondin du trappeur, est un élément essentiel du mythe. Sur cette photo de Shelter, manuel culte des années 70 de la construction alternative, on voit que l'autoconstruction prônée rejoint le mythe. On retrouvera cette image fondatrice de la cabane dans le cinéma, des vieux westerns au récent Into the Wild de Sean Penn. Mais la cabane est bonne à penser dans un autre sens. C'est aussi le refuge d'écrivains et de philosophes qui viennent s'y retirer pour écrire. On rejoint le cabinet de lecture du XVIe. On citera en premier lieu Henri David Thoreau, écrivain fondateur de la pensée cabanière avec son Walden, une philosophie dans les bois, et le philosophe Gilles Tiberghien vivra un siècle plus tard une expérience identique qui aboutira à son récent essai « Notes sur la nature, la cabane et quelques autres choses » qui est une contribution théorique assez intéressante sur la cabane comme acte artistique. On évoquera Melville, l'auteur de Moby Dick et de Taipi, qui se construisit une cabane dans le Maine. On citera encore le philosophe allemand Wittgenstein, qui édifia une cabane sur un promontoire au-dessus d'un fjord, totalement isolé et accessible seulement en barque aux confins de la Norvège. Extrait de ses carnets de Cambridge de Skolgen de 1936. « Je ne peux imaginer que j'aurais pu travailler ailleurs comme je le fais ici. C'est le calme et peut-être le merveilleux paysage, je veux dire sa gravité paisible. » Dans tous ces exemples, on rejoint la fonction essentielle de ressourcement de la cabane, que l'on pourrait résumer par cette phrase de Goethe tirée de Faust : ici je me sens homme, ici j'ose l'être. Ainsi, la cabane, qui pouvait sembler à première vue comme un sujet marginal, apparaît peu à peu comme un objet d'étude tout à fait légitime, voire universel et paradigmatique, qui renvoie à de multiples champs d'analyse. La cabane touche au domaine juridique, conféré sans doute par son statut de meuble et non d'immeuble, d'habitat précaire et temporaire, et la question du droit, du légal et du juridique est posée en permanence, dans ce qui n'est parfois qu'une tolérance à son endroit, et on le verra avec la tradition transgressive des cabanes languedociennes. Mais elle peut s'appliquer également au domaine religieux. On évoquera la fête du Sukkot, ou fête des cabanes, 5 jours après Yom Kippour, où les Juifs se construisent un abri symbolique avec 4 bouts de bois et quelques palmes dans leur jardin ou sur leur balcon. Symbole de pauvreté, la cabane reconstruite commémore le séjour du peuple hébreu dans le désert et sa longue marche vers la terre promise. La cabane est aussi à l'articulation des registres de l'imaginaire, du social et du technique. C'est la cabane vécue comme projet de vie, espace alternatif, correspondant à un désir d'évasion et de rupture, qui peut apparaître également comme une solution écologique selon 3 principes, l'autoconstruction, l'adaptation au milieu et la récupération de matériaux ou l'utilisation de ressources naturelles. Cette micro-architecture, critique en acte de l'habitat standardisé, peut être aussi un modèle expérimental pour certains architectes. Le Corbusier disait de son cabanon de 16 mètres carrés, construit en 1952, « Je me sens si bien dans mon cabanon que sans doute je terminerai ma vie ici. » Il ne croyait pas si bien dire, puisqu'un bain de mer fatal en 1965 scella son alliance définitive avec la Méditerranée. Autres petits exemples de cabanes, cabane perchée en Cévennes, d'architecte, qui rejoint un peu le rêve du baron perché d'Italo Calvino. Puis la cabane peut être également source d'inspiration pour des artistes. Voilà un petit aquarelle du 19e, ou bien le photographe Lagarde qui a photographié l'atelier cabane d'Azémar, de Jean Azémar, un des fondateurs de Support Surface. Là, à la Fondation Cartier, Agnès Varda, la cabane de l'échec à partir de pellicules de films refusés ou ratés. Ou bien cette cabane que je vous montre, Harald Fernagu, Résistance, une cabane de la pointe courte simplement détournée avec la position d'une Kalachnikov factice devant la porte. Ça s'appelle Résistance. En posant le rapport nature-culture, du dedans, du dehors, de la marge et de la normalité, du soi et du monde, la cabane en dit long sur les sociétés. On en viendrait presque à rêver d'une discipline nouvelle, la cabanologie, aux confins de l'ethnologie et de la pensée sauvage, qui reposerait sur le vécu, où l'objet empirique se confondrait avec l'objet de recherche, bref, une théorie en acte, une praxis en quelque sorte.
Sur Divergence FM 93.9, vous êtes à l'écoute du Bistrot des Ethnologues. Christian Jacquelin, ethnologue à la DRAC Languedoc-Roussillon et membre du LAIC, sur le thème « Le monde incertain des cabaniers », un bistrot enregistré ce mardi 7 octobre 2008 au Baloir.
Alors, nous allons aborder maintenant les exemples régionaux de notre intervention, illustré par les photos de Michel Descossi. Alors, donc, nous aborderons 3 cas à partir de 3 terrains déclinés d'est en ouest, les cabanons de Bouduc, les cabanes des étangs languedociens et les baraques des pêcheurs du Roussillon. Alors, vous avez remarqué, j'ai employé 3 termes différents. On dit cabanon à l'est du Rhône, cabane pour les cabanes languedociennes et baracas, baraque pour le Roussillon. Les cabanons de Bouduc. Alors, pour traiter ce cas emblématique, je m'appuierai naturellement sur les travaux de Laurence Nicolas, chercheur rattaché au DESMID, qui vient de publier un ouvrage de référence que je vous présente, qui vient de sortir, Bauduc, l'utopie des grades-plages, aux éditions Images en manœuvre. Donc, je vais parler sous son contrôle. Bauduc est situé sur la pointe du delta du Rhône, aux confins de la Camargue. On y accède difficilement par une piste chaotique remplie de bosses et de trous. Le site offre un paysage grandiose de digues, d'étangs, de dunes qu'on appelle les Montilles. Il abrite, ou plutôt il abritait, un village de, j'ai des chiffres, ils sont peut-être plus valables, 350 installations, 450 hétéroclites, des cabanes, des caravanes, vous voyez, une espèce de caravane pétrifiée, des wagons, des vieux bus, des abris de chantier. La présence des cabanes de pêcheurs venant des Sainte-Marie de la Mer et de Martigues est attestée au XVIIIe. De 1850 à 1850, les ouvriers saliniers des Salins-Giraud fréquentent ce pays de cocagne, giboyeux et poissonneux, pour s'y livrer à la chasse et à la pêche, dont le ramassage toujours actuel des télines, qui est à l'origine du sobriquet de gratte-plage, dont on affuble les habitants de Bouduc. Peu à peu, avec la généralisation des congés payés, l'ensemble de ces cabanes se transforme en habitat de loisirs. Toutes les couches de la population camarguaise y sont représentées, pêcheurs, ouvriers, artisans, commerçants, ouvriers agricoles, mais seuls les pêcheurs y vivent à l'année. On y trouve aujourd'hui des gens d'Arles, également des retraités à faible revenu. La caractéristique de cet habitat est d'être construit à partir de matériaux de récupération prélevés dans les usines et chantiers, et de s'être édifié sans permis ou autorisation. Les constructions sans droit ni titre, comme on dit en langage juridique, se multiplient. Et en 95, sur les trois quartiers de Bauduc, Bauduc Nord, Bauduc Plage et le village, on comptait, enfin moi j'avais un chiffre, 273 occupations fixes et 184 véhicules à l'année, caravanes, bus, fourgons. La diversité des formes des matériaux semble sans limite. Simples abris en canisse, prolongement de caravane, cabane en planches doublées de toiles goudronnées, toiture en tôle ondulée, etc. Tout semble bon à recycler. Une sorte de bidonville à effet esthétisant, pour reprendre l'expression de Laurence Nicolas. Et de fait, on a là un concentré d'architecture spontanée et populaire, dont l'esthétique particulière, résultat d'une récupération aléatoire et d'un bricolage permanent, relève de l'art brut. La société ainsi formée est une société de la débrouille, égalitaire et indifférenciée, vivant dans la marge, sur ce terrain mi-solide, mi-liquide, en bordure du monde qu'elle s'est approprié, en s'affrontant en permanence à des contraintes naturelles, le vent, le sable, qui s'immisce partout, les coups de mer, les moustiques. Dans cet univers à forte sociabilité, la littérature orale encore très présente se partage à travers des récits de construction de cabanons, de parties de pêche mémorables ou d'actes de résistance héroïques. Les cabaniers de Bauduc ont pris conscience de leur exception culturelle, puisqu'au nom des us et coutumes, ils tentent de trouver des arguments contre la loi littorale qui les astreint à détruire eux-mêmes leur petit paradis. Ces destructions vont d'ailleurs provoquer de grandes tensions entre les trois associations de sauvegarde et marquer peut-être la fin de l'utopie. En jouant sur les mots et pour rester dans le registre lexical de notre introduction étymologique, on pourrait dire « être contraint de casser la baraque pour éviter la cabane, il y a de quoi finir au cabanon ». Bon, plus de 350 cabanes ou caravanes ont ainsi été détruites sur l'ordre du préfet depuis le 31 novembre 2004, parce qu'installées illégalement sur le domaine public maritime. 80% sont menacées de disparition. Pour reprendre le titre de cette intervention, le devenir des cabanons de Bauduc reste incertain comme les confins de leur monde. J'aborde maintenant les cabanes des étangs du Languedoc. Étangs de l'Or, étangs de Pierre Blanche, étangs de Perros, du Prévost, de Thau dans l'Hérault, étangs de Pissevache, de Bages, de Sigean ou de Lérolle dans l'Aude, le lido languedocien est comme ourlé par une succession d'étangs entre mer et garrigue, mêlant étroitement le ciel, l'eau, la terre. Les étangs constituent un milieu très riche, tant sur le plan de la faune que de la flore. Zone refuge pour les oiseaux, canards, foulques, mouettes, goélands, cormorans, sternes et chassiers. Il abrite de nombreux crustacés et mollusques, et sert également de nourricier pour certaines espèces de poissons, comme les anguilles et les dorades, qui pénètrent par les gros. Sur les zones humides qui le bordent, croît une végétation particulière, tamaris et roselières dans les marais, salicornes et saladelles sur les terrains inondables, appelés sansouirs. La présence de l'homme est signalée près des étangs languedociens de longue date, comme on atteste ce beau plan aquarellé du XVIIe, conservé aux archives de Lunel. Il y a développé une culture particulière que l'on peut qualifier de culture lagunaire. Habitat, savoir, technique, sociabilité, nombreux sont les marques identitaires spécifiques des communautés des étangs. Ici, comme à Bauduc, l'architecture cabanière échappe au modèle, à la typologie. Néo-lacustre et adapté au milieu, avec ses pilotis enfoncés dans la canalette, vernaculaire et précaire avec les éléments naturels, parfois les sagnes qui l'habillent, garbage housing, littéralement architecture de rebut et autoconstruite dans nos bricolages poétiques de matériaux récupérés ou détournés, comme le bois passé au coltard, le carton goudronné SNCF, le bidon déroulé, et beaucoup pré-pavillonnaire avec de plus en plus ces tendances insidieuses du béton à se développer et à imposer son hégémonie. Prolongement indispensable des cabanes, les bateaux sont adaptés aux eaux plus profondes des étangs. Les négafoles, littéralement les noix fous, à fond plat, mus à la partègue, les rebalaïres, reconnaissables à leur pointe moins relevée que l'on déplace silencieusement dans les canalettes à l'aide du rouquette, les gabions, pour la chasse au gibier d'eau, les barquets, à rames ou à moteur. Chacune de ces embarcations a une fonction précise dans les pratiques de pêche ou de chasse. Lever le globe dans le canal, aller relever les verveux de Capetchade ou les trabacs pour capturer l'anguille dans l'étang, poster les mannequins et les canards vivants, puis piouter, c'est-à-dire utiliser des appôts, une partie de la nuit dans la fûte ou dans le gabion pour attirer la foulque. Les techniques halieutiques et synergétiques supposent un ensemble de savoirs et une intimité profonde avec les milieux. Connaissance de la météo, des vents, des déplacements des poissons ou des habitudes du gibier. Les chasseurs et les pêcheurs rythment leur vie sur les rythmes biologiques de l'étang. Ici règne l'entre-deux. Terre et eau se confondent dans la sensuire. Les poissons d'eau douce et les poissons de mer cohabitent dans la canalette, plus ou moins saumâtre. La foulque, gibier d'eau prisé, se pèle comme une anguille, a parfois le goût à poisson, et peut se consommer, dit-on, le vendredi saint. Cette ambivalence de la nature a dû se transmettre au domaine du droit, comme en témoigne le statut un peu flou des cabanes, un habitat précaire qui dure, mais les cabaniers, réboussiers par principe, s'accommodent assez bien de ce jeu avec la loi qui est là pour être transgressée ou détournée. Mais cela, dis-je en montrant les cabaniers dépenaillés qui s'étaient réunis autour de l'absinthe sous une tonnelle. Il s'arrêta d'aiguiser la faux, regarda dans leur direction, puis il dit « Cela, c'est le luxe !» C'est un extrait de « L'étang de l'or » de Gaston Bessette, et cet esprit cabanier que Gaston Bessette a si bien décrit se manifeste également dans un rapport au temps particulier, la sieste et la pétanque considérées comme des beaux-arts, ou dans la version et la dérision du monde. Les surnoms et sobriquets, parfois apposés sur les cabanes, en témoignent. La mairie annexe sur un cagadou à Lansargues, l'espung aux Salaisons. Alors l'espung, c'était le surnom du cabanier, puisqu'il avait tendance à... C'est l'éponge. Il avait tendance un peu à lever le coude. La préfecture à Marcillargues. La sociabilité masculine, autrefois marquée par la règle « pas de femme à la cabane », encore en vigueur dans certaines garçonnières synergétiques que sont les cabanes de chasseurs au gibier d'eau, tend à s'estomper dans les cabanes actuelles, vouées aux loisirs et aux week-ends. On serait tenté au final de faire l'éloge de la précarité qui menace et stimule à la fois en permettant d'échapper au code. En ce sens, les cabanes des étangs languedociens apparaissent comme les derniers d'une résistance à la norme. Il est d'usage pour les administrations évoquant les cabanes des bords des étangs ou du littoral d'utiliser le terme « cabanisation ». Évidemment, ce glissement terminologique n'est pas neutre et on retient exclusivement la dimension négative du phénomène, celle d'urbanisation sauvage, créatrice de nuisances. En fait, ce n'est pas la cabanisation qu'il faudrait redouter et combattre, mais bien la décabanisation, c'est-à-dire la transformation des cabanes en villas par remplacement des matériaux, quairons et béton omniprésents en lieu et place des matériaux recyclés. Changement de fonction, occupation permanente, et appropriation privative de l'espace, par murs et clôtures. C'est en quelque sorte l'esprit des cabanes qui disparaît pour céder la place à des lotissements anonymes et médiocres, sous la pression foncière et immobilière et sous la pression de la spéculation dont les cabanes font l'objet dans certaines communes. Dernier point de mon intervention, les baraques des pêcheurs du Roussillon. Alors sur ce point de mon exposé, je m'appuie sur les travaux de Robert Bataille, qui était un fils de pêcheur à qui on avait confié, la DRAC avait confié une étude il y a quelques années pour travailler, pour faire une espèce d'inventaire un peu de ces baraques du Roussillon. Dans les Pyrénées-Orientales, dans la plaine côtière du Roussillon, les baracas, terme catalan pour désigner les cabanes, ont longtemps constitué à la fois un mode d'habitat et un outil de travail pour les pêcheurs qui exerçaient leur métier de manière traditionnelle entre mer et lagune. Isolés ou regroupés en hameaux, ces baracas dont il existe encore quelques exemples sont les derniers témoins d'un mode de construction qui était répandu sur tout le littoral sablonneux de la côte méditerranéenne. Étonnamment moderne par son principe isothermique, son adaptation au milieu écologique et son intégration esthétique à l'environnement, la baraka répondait parfaitement à sa fonction originelle d'habitat-outil de travail, tant les pêcheurs la considéraient comme le prolongement naturel à terre de leur bateau. Son aspect extérieur évoque d'ailleurs celui d'une coque de bateau retournée. Témoigne de cette identification à l'embarcation, le vocabulaire emprunté à la charpente maritime qui décrit les éléments la composant, comme par exemple la carena, poutre de faîtage reposant sur deux mâts, ou als puntals, les poteaux fichés dans le sol. En catalan, puntal signifie le creux de la coque. La baraka est toujours orientée comme un bateau au mouillage, dans la direction des deux vents dominants, tramontane et vent marin, diamétralement opposés, ouest-nord-ouest, est-sud-est. Les activités halieutiques autour de l'étang de Sals sont attestées depuis le néolithique. L'utilisation du roseau, notamment dans les toitures de l'habitat et du pourtour méditerranéen, remonterait au moins au 5e siècle avant Jésus-Christ. Précisons toutefois que les cabanes en roseau et en jonc n'étaient pas limitées aux Pyrénées-Orientales. Dès le Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle, leur présence est largement signalée sur tout le littoral languedocien et catalan. Là, une gravure intéressante extraite du Télérénaudier, 1839, qui représente les remparts d'Aigues Mortes et devant deux magnifiques cabanes en roseau. J'aurais très bien pu également vous mettre une photo de Courbet à Palavas, invité par Bruyas en 1854, qui a peint la mer avec les cabanes en roseau. En Roussillon, ces cabanes, ces baracas constituaient un type d'habitat généralement saisonnier. Côté mer, elles étaient utilisées pendant l'été et côté étang pendant l'hiver. Les pêcheurs y passaient la semaine et ne rentrant au village que le dimanche. Aujourd'hui, ils n'y passent plus que la journée ou les fins de semaine. Quelques-uns y rangent encore le matériel, les trabacs, les crocs et les voiles. Autrefois liée à des pratiques traditionnelles, la baraka est devenue désormais essentiellement un lieu de détente et de convivialité. On y vient surtout le dimanche, en famille ou entre amis, boire un verre ou manger la boulinade, le plat traditionnel à base d'anguilles bouillies. À l'origine, les baracas étaient autoconstruites avec des matériaux tirés du milieu naturel. Les séniles, c'est-à-dire les roseaux communs des marais, les sagnes, comme on dit ici, les cagnas ou cannes de Provence, et également des matériaux de récupération. On utilisait en général pour la charpente des vieux mâts de barque, des barques catalanes, ou dans un passé plus récent, des poteaux électriques et téléphoniques ou des traverses de chemin de fer. Deux types de baracas dominent, la baraque ovale à deux absides et la baraque rectangulaire. L'emprise au sol de la baraka est délimitée par une rangée de pieux appelée la piquetade. Le sommet de cette piquetade est relié par une ceinture sablière de perches horizontales. Une fois posée la carena et sa charpente, on fixe sur tout l'ensemble un clayonnage horizontal de cagnas. Les séniles, donc les roseaux, sont rassemblés en bottes d'une trentaine de centimètres d'épaisseur. Cette couverture est cousue au clayonnage avec du fil de fer. Côté extérieur, des faisceaux constitués de trois ou quatre tiges de cagnas cerclent horizontalement la couverture de séniles. Posée en trois couches successives, cette couverture est refaite tous les 3 ou 4 ans. Elle offre d'excellentes qualités isothermiques. Partant sec, les roseaux se contractent, assurant ainsi la ventilation de la baraka, et partant de pluie, ils gonflent, lui offrant ainsi une parfaite étanchéité. Voyons voir un peu l'aménagement intérieur. L'intérieur de la baraque est généralement divisé en trois pièces. La pièce centrale sert de cuisine et pour le stockage alimentaire. À l'origine, un petit foyer était aménagé à même le sol au milieu de la pièce, comme dans les tipis. Et la fumée s'échappait par le ventail supérieur de la porte. Par la suite, on le voit dans cet écorché, des cheminées ont été aménagées. En règle générale, la pièce sud-est sert de chambre aux parents et la pièce nord-ouest est réservée aux enfants et au rangement de matériel. La baraka s'inscrit en étroite relation avec son environnement. Côté nord-ouest, une haute palissade de cagnas, qu'on appelle le répar, est construite perpendiculairement à la baraka pour protéger de la tramontane. Parfois, un toit en auvent, qui s'appelle l'ombraire, la complète, abritant du soleil. À proximité de la baraka est l'estranadou, c'est-à-dire un alignement de perches fixées horizontalement sur des piquets et sur lesquels les filets étaient mis à sécher après teinture. L'agouya, enfin, est le petit port artificiel permettant de laisser les bêtes, c'est-à-dire les barques à fond plat, à flot, amarrées à l'estacade de l'abri. Habitat temporaire et précaire, les baracas du Roussillon sont particulièrement menacées. En 1957, on en dénombrait encore plus de 130 entre Leucate et Argelès. Suite à l'aménagement du littoral, engagé depuis les années 60, qui entraîna la destruction de plusieurs villages de cabanes et au développement également de la grande pêche, il n'en subsiste plus aujourd'hui que quelques exemples autour de l'étang de Sals et au Barcarès. Comme à Bauduc, le problème récurrent des baracas vient toujours du statut foncier, car pour la plupart, elles sont installées sur le DPM, domaine public maritime, et font l'objet de concessions temporaires depuis une ordonnance royale de Colbert datant de 1691. Reprenons la chronologie de ces 40 dernières années. En 1960, un arrêté préfectoral interdit, je cite, « ces baraquements faits généralement de roseaux, considérant que la prolifération de tels taudis compromet gravement l'esthétique des plages. » En 1961, des villages de cabanes sont détruits à Saint-Cyprien et à Port-Barcarès. En 1976, le Bourdigou, sur la commune de Sainte-Marie-la-Mer, village de plusieurs centaines de baracas en sénil et de cabanes en planches, incarne la résistance des cabaniers. Un arrêté d'insalubrité est pris, suivi d'expulsion et de condamnation des familles par le tribunal pour occupation sans titre des terrains. Un comité de défense se crée et une paillote symbolique est construite. La dernière baraque, celle de Galdric, le maire du Bourdigou, sera détruite au bulldozer après sa mort en 1983. Alors, pour illustrer ce propos, je vais vous passer trois photos moi, que je trouve exceptionnelles de Michel Descossi, que Michel Descossi a prises sur le vif pendant la destruction du Bourdigou au début des années 80. 78, malgré tout, première tentative de protéger quelques cabanes. La Commission supérieure des monuments historiques examine les dossiers, mais cela n'aboutit pas. En 94, sur la base de l'étude de Robert Bataille, l'habitat en roseau traditionnel, les baraques de Sénil des pêcheurs roussillonnais, et à l'initiative de notre regretté collègue André Signol, de la conservation des monuments historiques, puis du service ethnologie de la DRAC, deux baraques sont proposées à la protection. La baraka de la famille André Canal, sur la commune du Barcarès, au lieu dit La Coudalère, et la baraka de la famille Cabrol, sur la commune de Sals. L'arrêté d'inscription repose sur l'intérêt archéologique et ethnologique de cet habitat, lié à la pratique de la pêche en étang et sur sa fragile représentativité, réduite aujourd'hui à quelques rares exceptions, et pour cause. En l'espace de 30 ans, l'image de la baraque des pêcheurs du Roussillon donc a changé de manière radicale. Détruite au nom des impératifs touristico-économiques et d'une sorte d'hygiénisme social et urbanistique dans les années 70, elle a été réhabilitée symboliquement par le classement monument historique, c'est-à-dire le plus haut degré de légitimation patrimoniale, même s'il peut paraître paradoxal de protéger de l'architecture éphémère. Cette réhabilitation symbolique est également perceptible dans le modèle architectural qu'elle offre désormais, puisque les maires du littoral des PO, les Pyrénées orientales, qui détruisirent à coups de bulldozer, ont reconstruit des villages de pêcheurs à usage estivant nord-européen, qui sont des pastiches dérisoires des baraques séniles authentiques.
Sur Divergence FM 93.9, vous êtes à l'écoute du bistrot des ethnologues. Christian Jacquelin, ethnologue à la DRAC Languedoc-Roussillon et membre du LAIC, sur le thème « Le monde incertain des cabaniers », un bistrot enregistré ce mardi 7 octobre 2008 au Baloir.
Voilà, au terme de cette intervention, donc portant sur les cabanes dites traditionnelles et sur un monde qui tend à disparaître, je voudrais juste livrer quelques réflexions et interrogations en guise de conclusion. Destruction, transformation, patrimonialisation. C'est comme si les trois cas limites que nous avons évoqués en Camargue, Languedoc et Roussillon traçaient les destins inéluctables de ce monde des cabanes et des cabaniers, désormais rattrapés par la société. Bon, qui sont les néo-cabaniers ? Moi, j'ai travaillé surtout sur les cabanes dites traditionnelles. Il y a des néo-cabaniers. Y a-t-il des nouveaux usages, de nouvelles pratiques, de nouvelles représentations de la cabane ? Peut-on encore parler d'esprit cabanier en ce début du XXIe siècle ? Bon, le champ qui s'ouvre est vaste. La cabane, qu'elle soit précaire, de l'enfance, fonctionnelle ou résidentielle, n'a pas fini de nous interroger et puis peut-être de nous faire rêver. Voilà, je vous remercie.
Eh bien, bonsoir. Donc, après ce brillant exposé sur la cabane, je crois que c'est assez bienvenu de voir, enfin de découvrir ou de revoir pour certains un cabanier tel qu'on l'a filmé pendant une année et demie à peu près avec Christian. C'est un personnage qu'en fait j'avais rencontré déjà dans un premier film il y a 20 ans. Et en fait, on a revécu donc des petites séquences de vie ensemble dans cette année et demie de tournage. Et au départ, je pensais que j'allais mettre des images d'archives que j'avais déjà en magasin. Et en réalité, ce n'était pas la peine. Il continuait à être ce qu'il était. Bon, et maintenant, il est malheureusement décédé il y a quelques années, deux ans, je crois.
Oui, en 2006, oui, c'est ça.
Voilà.
En juin 2006.
Et donc, il nous reste ce témoignage quand même qu'on aime bien. Donc voilà, peut-être qu'après on en parlera.
Je précise juste que l'ouvrage qu'on a sorti chez Equinox est à la mémoire de Joseph et en hommage à Gaston Bézette.